Bonjour, merci beaucoup d'être venu. Et peut-être que, avant de commencer, je voudrais revenir sur un petit point. Enfin, c'est un petit détail, mais j'aimerais que vous l'ayez en tête pour la suite de notre cours. Je le redirai à la fin du cours de cette année. Mais vous savez que je vous avais parlé de cette citation de Po Chuyi, donc, où il disait cette phrase célèbre sur les propos spécieux, futiles et spécieux, donc la poésie littéraire chinoise, qui peut se retourner avec ce caractère han, n'est-ce pas, fan en chinois, hon en japonais, et hirugaesu, donc elle se retourne elle se transforme. Et n'oubliez pas que ce caractère, comme vous le savez tous, est aussi utilisé dans la locution honyaku, c'est pas traduire, et c'est un terme qui se trouve déjà dans les textes chinois anciens, surtout dans les textes bouddhiques d'ailleurs. Et évidemment, lorsque, comme nous l'avons vu à la fin du cours de la semaine dernière, Jien réutilise cette même citation dans sa postface à l'adaptation japonaise des poèmes de Po Chuyi, il le prend évidemment dans les deux sens. Les propos futiles et spécieux se retournent pour devenir de bons agents karmiques dans les vies ultérieures, mais aussi deviennent des traductions en japonais, ce qui conforte cette idée que l'on trouve à son époque sur le utanomichi, la voie de la poésie, et hotoke no michi est la voie bouddhique. C'est à la fois un retournement donc karmique et un retournement dans la traduction. Je voulais rajouter ce détail. Donc il est temps aujourd'hui d'aller à l'essentiel et d'aborder le contenu de ce texte complexe qu'est le Wakan Loeshu. Le professeur Shidane, dont j'ai déjà parlé, a résumé le rôle de ce recueil comme celui d'un manuel que l'on étudiait pour se familiariser avec la composition poétique dans les deux styles chinois et japonais. C'est ce rôle qui explique que le texte ait fait l'objet de nombreux commentaires japonais au cours des âges. Ces commentaires sont désormais recueillis dans une édition moderne qui est intitulée « Collection des commentaires anciens du Wakan Loeshu ». Wakan Loeshu Kochu Shaku Shuse, qui est faite par plusieurs professeurs, les professeurs Ito, Kuroda et Miki. Mais je publié depuis quatre volumes, n'est-ce pas, trois tomes. Et en particulier, cette collection des commentaires anciens contient ceux qui font le plus souvent le fondement des explications et des interprétations modernes. Donc, le plus ancien, c'est celui qui est en premier ici, Oe no Masafusa, n'est-ce pas, donc vous avez les dates ici, le Roe Go-chu, les gloses de Oe au Roe-shu, qui est en fait constitué de notes interlinéaires, qui est des notes faites par Masafusa sur le texte même. Ce n'est pas un ouvrage indépendant, mais ces notes marginales ont été reprises dans les commentaires ultérieurs. Il y a ensuite deux commentaires importants, à peu près contemporains, donc les gloses personnelles sur le Wakan Loeshu Shichu, qui sont rédigées en style chinois, en kanbun, dû à Xin'a, qui est l'autre nom d'un moine de la fin du XIIe siècle, Kakumyo, donc un moine qui était actif au tout début de l'époque de Kamakura. Ce Kakumyo a un certain renom, mais on sait relativement peu de choses de sa carrière, et on voit qu'en tant que Xin'a, évidemment ce nom démontre un attachement aux croyances amidistes. Il y a ensuite, autour de l'an 1200, les gloses d'Eisai, les gloses d'Eisai sur le Wakan Loeshu, le Wakan Loeshu Eisai Chu, rédigé en écriture japonaise cette fois, qui est l'œuvre d'un religieux de ce nom, n'est-ce pas, dont on sait aussi très peu de choses. Et d'ailleurs, on pensait jusqu'à récemment qu'il était du 15e, 16e siècle. Chose tout à fait improbable, puisqu'il est cité dans un troisième commentaire, qui est les extraits exégétiques sur le Wakan Loeshu, Wakan Loeshu Chusho, rédigé en chinois classique et dont l'auteur est un moine, Shaku Mumyo, n'est-ce pas? Enfin, Shaku est simplement le nom générique des moines, si l'on peut dire, dont on ne sait pratiquement rien, sinon qu'il était fort érudit en lettres chinoises. Il faut encore mentionner un ouvrage à caractère encyclopédique, dont l'auteur est fort connu. Il s'agit du grand lettré de l'époque d'Edo, Kitamura Kigin, 1625-1705, dont on connaît avant tout le grand commentaire du Genji Monogatari, qui est intitulé le Kogetsucho, que l'on trouve encore actuellement au Japon en livre de poche, enfin en édition de poche. Il est intéressant de voir que le commentaire de Kigin donc, fait partie d'un programme exégétique qui lui-même était un grand poète de waka et de haïku, mais ce programme exégétique de Kigin comprenait le Genji Monogatari, le Manyoshu, le Issei Monogatari, le Makura no Soshi, les Hachidaishu, n'est-ce pas, c'est-à-dire les huit recueils, les huit anthologies poétiques qui vont du Kokinshu au Shin Kokinshu, et le Tsurezuregusa. Donc vous voyez que le Wakando Eishu est mis au niveau des œuvres les plus prestigieuses de la littérature classique japonaise, ce qui indique bien le grand cas que l'on en faisait à l'époque d'Edo. Et déjà autrefois, bien sûr, mais son renom est resté jusqu'à Edo, comme nous avons vu la preuve avec l'édition qu'en ont faite des jésuites. Les éditeurs et commentateurs modernes citent abondamment tous ces commentaires, en privilégiant les premiers, c'est-à-dire les shichu, donc les notes personnelles, et le chusho, les extraits exégétiques. Et nous nous sommes référés dans ce cours à plusieurs éditions moderne, donc qui nous donne la substance la plus substantifique de ces commentaires anciens, celle de Kawaguchi Isao, qui est peut-être la plus facile d'accès, puisqu'elle est aussi dans le livre dans la même collection d'ailleurs que le Kogetsucho, et qui donc Kawaguchi Isao 1910-1993. Malheureusement, cette édition ne donne pas le texte en kanbun. Il ne donne que le kakikudashi, c'est-à-dire la lecture en japonais classique des poèmes. Mais elle est très précieuse en raison de l'érudition de l'immense érudit qui était Kawaguchi Isao, grand spécialiste de la littérature de style chinois de Heian. Une autre collection copieusement commentée que nous utiliserons souvent parce qu'elle me semble être la plus pratique et la plus riche, c'est celle du professeur Sugano Hiroyuki, le Wakando Eishu, donc, qui est dans la collection Nihon Koten Bungaku Zenshu, Shinpen Nihon Koten Bungaku Zenshu, Zenshu de Shogakukan, 1999. Et ensuite, nous avons celle des professeurs Osone Shosuke, qui est mort en 93 aussi, et qui est un grand spécialiste de la littérature de style chinois de l'époque de Heian. Et l'édition la plus récente, qui est aussi très intéressante, c'est celle des deux professeurs Sato Michio et Yanagizawa Ryoichi, qui est paru en 2011 dans la collection Meiji Shoin, dans la série Wakan Bungaku Taike, le numéro 47 de cette série, qui a le grand intérêt de mettre, en plus du Wakan no Eishu, dans le texte qui nous intéresse, un autre texte bien moins connu, qui est le Shinsen no Eishu, c'est-à-dire le nouveau recueil des poèmes à réciter. C'est un texte incomparablement moins connu que son prédécesseur, et qui est l'œuvre de Fujiwara no Mototoshi, 1060-1142, arrière-petit-fils du grand homme d'État Michinaga, Fujiwara no Michinaga, qui symbolise le fait de la puissance politique du clan des Fujiwara. Mototoshi a droit à la célébrité grâce à l'un de ses poèmes qui figure dans le Hyakunin Ishu, c'est cette grande anthologie de la fin de l'époque de Heian qui est due à Teika. Mais il en a aussi une centaine qui ont été retenues dans les anthologies impériales. Il fut aussi l'un des grands calligraphes de l'époque de Heian, et on possède une copie manuscrite de ce texte, ce nouveau recueil qui est de sa main. Ce livre, le Shinsen, donc Roeshu, comporte 746 poèmes chinois et japonais, 544 chinois et 202 japonais, contre 803 ou 804 pour le Loeishu, n'est-ce pas ? Vous voyez que c'est pratiquement le même nombre de poèmes. Et il suit étroitement la structure de son modèle, réparti en deux livres, donc le premier livre consacré aux quatre saisons et le second livre, les atsu, n'est-ce pas, les miscellanées en quelque sorte. Et chaque sous-rubrique suit pratiquement exactement celle du Wakan no Eishu. Donc c'est vraiment un décalque avec un autre contenu. Et donc il serait bien entendu passionnant de suivre la façon dont les poèmes choisis par Mototoshi répondent à ceux rassemblés par Kinto. Nous n'aurons pas le loisir ici, mais ce sera la matière de notre séminaire. Dans le séminaire, nous allons examiner plus précisément le parallèle entre les deux. Ce sera un exercice assez intéressant. Fort malencontreusement pour nous, le Roeishu, comme le Shinsen Roeishu d'ailleurs, qui limite, vous voyez, même en ce point, sont dépourvus de préface et de postface, qui nous auraient permis d'avoir au moins une idée des intentions des compilateurs. Tout aussi malencontreusement, les opuscules fort courts de Kinto que j'ai évoqués au cours précédent sont fort loin d'apporter autant de lumière sur sa théorie poétique que, par exemple, le traité de Shunze que j'ai abondamment cité il y a 2 ans, le Kōrai Futeisho. Nous serons donc obligés de nous en remettre à l'agencement interne de l'ouvrage de Kinto pour tenter de comprendre davantage sa vision du rapport des langues qu'il illustrait ainsi dans son anthologie. Le mieux sera donc de nous lancer rapidement dans sa lecture. Et puisque Kinto ne prend pas la peine d'introduire son lecteur dans l'agencement de son travail, nous suivrons sa démarche et nous nous plongerons de but en blanc dans le texte. C'est ainsi que nous pénétrons dans la première partie sur le printemps, intitulé donc Hado, comme le Kokinshu, n'est-ce pas ? C'est désormais, à l'époque de Kinto, un procédé de classification de la poésie qui est issu non pas des anthologies poétiques chinoises, mais plutôt de la tradition encyclopédique et lexicographique du chinois. Mais les Japonais l'ont transféré dans la classification poétique. Et la première des 18 sous-rubriques que compte le printemps est intitulée « Le début du printemps d'Ishun ». Alors là, je m'aventure dans un terrain auquel je n'entends pas grand-chose. Je vous dis donc simplement ce que je peux en comprendre. Il faudrait demander à des spécialistes comme mon plus jeune collègue Mathias Hayek, par exemple, ce qu'il en est exactement, mais je vous donne simplement quelques indications pour que vous compreniez le contenu des poèmes que nous allons voir. Donc, le calendrier sino-japonais est à la fois lunaire et solaire, les mois étant définis par les phases de la Lune, ce qui fait que l'année suit donc le rythme de la Lune et qu'elle comporte seulement 354 ou 355 jours. On est alors obligé, pour rattraper le cours de l'année solaire, d'ajouter un mois intercalaire, ce qui faisait une année de 383 ou 384 jours à intervalles réguliers. Ce que l'on appelle le début du printemps, dit Shun, est en revanche un repère astronomique solaire et pas lunaire, qui correspond à une date fixe de notre calendrier solaire, puisqu'il s'agit du jour où le soleil atteint le 315e degré de longitude céleste, ce qui correspond en général au 4 février de notre calendrier, et peut évoluer entre le 3 et le 5. Le nouvel an lunaire, donc le japonais, ne suit pas forcément le début du printemps, en raison du décalage entre rythme solaire et lunaire. Ainsi, par exemple, cette année, l'année 2015, l'ancien nouvel an, ce qu'on appelle l'ancien nouvel an, le Kyushu Yatsu, qui est le nouvel an chinois ou le nouvel an vietnamien, et au Japon, il est encore beaucoup moins célébré que dans les autres pays d'Extrême-Orient, mais il est encore commémoré, disons. Donc, cette année, le nouvel an ancien, Kyushu Yatsu, tombera le 19 février, ce qui en fera le premier jour du premier mois lunaire. Donc, nous sommes donc dans la situation poétique que nous verrons tout à l'heure, c'est-à-dire que nous sommes dans une année où le nouvel an tombera après le début du printemps, ce qui apparaît toujours quelque peu dérangeant, car n'oublions pas que le printemps correspond à la première saison de l'année et le début du printemps devrait être dans l'année pour que l'année apparaisse normale, disons. Le premier poème, ou plutôt le fragment poétique que choisit Kinto, est hautement symbolique pour au moins 2 raisons. mais elle se ramène probablement à une seule, comme nous allons le voir. Alors que j'ai souligné que le Roeishu avait pour centre la poésie de Po Tui, et que nous devrions donc nous attendre à ce que ce soit lui qui inaugure l'anthologie, ce n'est à l'évidence pas le cas ici. Nous avons bien affaire à un poème en chinois classique, un shi, mais il est l'œuvre d'un auteur japonais. Et le choix de cet auteur n'est pas insignifiant. Il ne s'agit en effet de nul autre que de Ki no Yoshimochi, dont se souviennent peut-être ceux qui ont suivi le cours d'il y a 2 ans. Poète et lettré mort en 919, il fut recteur, Daigaku no Kami, de l'université impériale, comme on traduit parfois un peu abusivement, le Daigaku-ryo, qui était le haut lieu des études chinoises et japonaises, d'abord à Nara, puis à Kyoto. On se rappellera qu'il était l'auteur de la préface en chinois, le Manajo, du Kokinshu, préface qui devait figurer d'abord en tête du recueil, mais fut ensuite déplacée à la fin pour être remplacée par la préface en japonais, le Kanajo, de son parent Kinotsurayuki, avec le succès qu'on lui connaît. Nous venons de signaler l'absence de préface dans le recueil de Kinto, mais le fait que le premier poème, sous la rubrique du printemps, reprise du Kokinshu, soit l'œuvre du préfacier sino-japonais de cette anthologie, du Kokinshu, ce fait donc ne peut être que profondément significatif pour tout lecteur japonais cultivé de l'époque. Cette citation doit être prise comme un signe de la préface sino-japonaise, un rappel de celle-ci. Ce poème est à la fois poème et préface. Il est donc d'autant plus important de relever que cette citation est en sino-japonais. Il s'agit d'une sorte de rectification du Kokinshu, d'une remise dans la bonne perspective hiéroglossique du rapport entre les deux langues, le chinois, le sino-japonais en premier. Que cela n'est rien de fortuit sera démontré très bientôt. Mais on doit aussi relever que le choix du sino-japonais était aussi inévitable en raison de la structure du recueil qui donne la priorité au chinois avant le japonais. Cela ne rend que plus remarquable que, contrairement à la disposition d'ensemble de ce recueil, ce qui sera chinois d'abord, c'est-à-dire le chinois écrit par un chinois, ensuite sino-japonais, c'est-à-dire le chinois écrit par un japonais, et japonais ensuite, nous ayons ici dans cette première série, cette première courte série, une répartition différente. Voyons d'abord la citation de Yoshimochi. Je vous ai donc donné ici le texte chinois original, la lecture sino-japonaise, la lecture japonaise donc, que j'ai adaptée en faisant, par exemple, vous voyez que le premier, je n'entre pas dans les détails, vous voyez que le caractère fuku est lu très habilement kaze, au lieu de, parce que c'est, il faut en faire un nom, puisqu'il est grammaticalement, c'est un complément d'objet. Et j'ai standardisé en quelque sorte les formes verbales. Vous voyez que oite, le premier caractère est lu oite, alors que l'on trouve otte, oute, etc., etc., selon les différentes éditions. Bon, le titre, on reviendra très rapidement dessus tout à l'heure. Donc, au début du printemps, le jour du Rishun, en présentant une fleur ou un rameau, sans doute un rameau fleuri, présentant sans doute à l'empereur un rameau fleuri lors du repas cérémoniel au palais, n'est-ce pas, le Nai, ici. Donc voici le texte de Yoshimochi. Je rajoute quelques petites précisions. Alors, au souffle du vent printanier, voici que les fleurs de prunier, moumées, discrètement s'épanouissent. Le discrètement, n'est-ce pas, enfin, on va revenir là-dessus. Discrètement s'épanouissent sans avoir attendu le temps de la floraison universelle. Le Shisonde, qui on lit aussi Hisokani, n'est-ce pas ? Je pense que discrètement va bien. Donc, au souffle du vent printanier, voici que les fleurs de prunier discrètement s'épanouissent sans avoir attendu le temps de la floraison, Hōshi, n'est-ce pas ? De la floraison des autres plantes. Accueillant le printemps, aussitôt elles se métamorphoseront, espérant les bienfaits de la pluie et de la rosée. On ne sera pas surpris d'apprendre que ce poème d'apparence si printanière est avant tout, ainsi que nous le savons depuis les anciens commentateurs, un poème politique, ou plus exactement, qu'il appartient à un sous-genre dont nous avons déjà vu des exemples dans les Waka, le sous-genre des récriminations moroses sur les carrières bloquées, récriminations habilement dissimulées sous le voile des images poétiques. La tradition est ancienne et remonte au moins au livre des odes chinois. Yoshimochi a recours à l'image du début du printemps qui arrive avant le nouvel an lunaire, donc un déphasage, un décalage. La petite fleur qui s'ouvre prématurément, c'est lui, et discrètement, qui n'attend que son seigneur lui accorde toute son attention, qui est la venue de l'an neuf, pour pouvoir enfin être inondé de ses bienfaits. On trouvera peut-être un peu curieux qu'un recueil si exemplaire en son intention commence sur un tel ton d'insatisfaction rentrée. Mais les commentateurs précisent que lors du banquet palatin, auquel le titre fait allusion et au cours duquel le poète a présenté à l'empereur un rameau fleuri comme métaphore concrète de sa situation, le souverain, il s'agissait ici de l'empereur Daigo, qui a régné jusqu'en 930, qui est mort en 930, en fut touché et il le promut immédiatement à un rang de cour fort honorable. Ce point est bien sûr important et ne peut être connu que grâce aux commentaires, puisque rien dans le texte de Kinto ne nous l'indique. Il constitue aussi l'une des raisons de son choix. On verra cette supposition corroborée par le poème suivant, le choix de ce poème comme poème d'ouverture. On se souvient que c'est aussi l'un des traits des poèmes sur les divinités, les Jingika, qui sont en ce cas étroitement associés à l'efficace impériale, les divinités. Les poèmes d'ouverture des Jingika sont souvent des souhaits de prospérité, de longévité et de réussite, de même que les poèmes de conclusion. Mieux encore, tandis que le fragment donné ici est effectivement un poème de souhait, comme l'indique le mot koi negau, negau, n'est-ce pas le sixième caractère avant la fin. L'anecdote qui l'accompagne tacitement, charge au commentateur de la mettre ensuite en lumière, illustre son efficacité. Rappelons aussi très brièvement que ce poème n'est pas de facture tout à fait classique, puisqu'il s'agit d'un fu, c'est le dernier caractère du titre, n'est-ce pas, qui est donné à la dernière ligne. Sorte de récitatif poétique chinois, élaboré à date très ancienne, que les anglo-saxons traduisent souvent par rhapsodie, pourquoi pas, dont les exemples les plus illustres datent des deux dynasties des Han, n'est-ce pas, donc grosso modo du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3e siècle. Ce sont des textes en prose rimée, récités et non chantés, en Chine, qui se distinguent des poèmes de forme plus classique par leur longueur et leur caractère descriptif ou narratif. Ils furent connus au Japon grâce à l'introduction en ce pays de l'anthologie de la littérature ou l'anthologie littéraire Monzen Wenxuan, vaste encyclopédie de textes littéraires chinois en 60 livres, compilés entre 520 et 530, dont 18 sur les 60, 18 livres sont consacrés au fou, justement, à ses rhapsodies, deux de plus que les poèmes de facture plus classique appelés Shi. Ces textes, qui vont de moins 300 à plus 500 environ, furent avidement étudiés au Japon, dans le Monzen. Et le Monzen fut la base de l'éducation littéraire dès l'époque de Nara, et connu son apogée à Heian. Sei Shonagon, par exemple, dans son Makura no Soshi, mentionne précisément le Monzen, donc l'anthologie littéraire, à côté du Monju, c'est-à-dire du Hakushi Monju, n'est-ce pas, le recueil des œuvres de Po Chuyi, Fumiwa Monzen Monju. Les livres, c'est les livres et en même temps les modèles de livres et sont le Wenxuan et le Monju. Il n'est donc pas étonnant qu'un fin lettré chinois tel que Yoshimochi se distingue dans ce genre éminemment lettré, d'autant plus qu'un thème qui s'y rencontre très souvent dans ce fou, c'est la complainte du lettré qui n'arrive pas aux honneurs qu'il estime avoir mérités. Nous ne pouvons entrer ici dans les remarques plus détaillées des commentateurs sur les résonances du vocabulaire de cet extrait avec les poèmes de Po Chuyi, d'autant plus qu'elles sont assez vagues pour être véritablement révélatrices. Mais c'est bien sûr des rencontres, des résonances dont il faudra tenir compte lorsqu'elles seront plus significatives. Le second poème apparaît encore comme l'illustration de l'efficacité verbale face aux circonstances adverses. Il s'agit, encore une fois, de l'œuvre d'un poète japonais, rédigé en style chinois. Il y a, encore une fois, une incertitude dans l'attribution, selon les différentes versions. Je ne l'ai pas fait remarquer tout à l'heure, mais nous suivons encore une fois la grande majorité des éditeurs modernes pour désigner l'auteur comme Fujiwara no Atsushige, parfois lu Atsumochi, et prononcé le plus souvent dans le Wakan no Ishu, lu accompagné de la lecture Tokubo, c'est-à-dire la lecture phonétique sino-japonaise, donc qui fait plus lettré. Nous savons très peu de choses sur lui, sinon qu'il vécut au Xe siècle, une ou deux générations avant Kinto, et que plusieurs de ses poèmes sont recueillis dans les anthologies sino-japonaises, et que six de ses poèmes sont cités dans le Wakan no Ishu, dont un en entier. Voyons tout d'abord donc ce fragment, ce distique, intitulé, je vous le donne en bas, n'est-ce pas, « Le jour du début de printemps », une description de mes sentiments que j'offre aux compagnons de l'unkaku. Le unkaku, c'est le... vous voyez les caractères dans le titre à la dernière ligne. Et je vais vous faire remarquer pour les japonisants modernes que le caractère un, n'est-ce pas, la clé de la plante et la partie phonétique un en dessous, ce n'est pas l'abréviation de gei, de geijutsu, ça n'a rien à voir, vous le savez, n'est-ce pas, ce sont deux caractères différents, puisque ce caractère un désigne une plante, ce n'est pas donc le lézard, c'est une plante qu'on appelle en français, d'un nom un peu désobligeant, la rue fétide, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est une plante dont on mettait les feuilles entre les pages des livres pour faire fuir les insectes. Et ce unkaku, donc ce cabinet de la rue, si j'ose dire, est le nom sinisé littéraire du Uchino Gosho Dokoro, n'est-ce pas, c'est-à-dire la bibliothèque palatine, la bibliothèque impériale, dont Atsushige faisait partie. Donc il les offre à ses compagnons, à ses compagnons bibliothécaires, en quelque sorte. Je vous donne la traduction de ce poème, de ce distique. La partie est de la glace de l'étang. Le vent, sous-entendu le vent printanier qui l'a traversé, l'a fondu. Mais les fleurs de prunier à la fenêtre du nord, bloquées par la neige, sont encore sous le froid. J'adapte un peu pour que l'on voit l'ensemble. Alors je traduis systématiquement moumé par prunier plutôt que prunus, parce que le mot n'est pas très joli en français. Nous avons ici encore, au niveau littéral, la description d'un début de printemps qui est encore situé du mauvais côté de l'année et de ses conséquences contradictoires sur le paysage, dont une partie est déjà entrée dans le dégel annonciateur des beaux jours, tandis que l'autre endure encore le froid. Cependant, les commentateurs les plus anciens nous donnent de précieuses informations encore sur les réelles motivations du poète, motivations qui expliquent que cette pièce est donnée comme une description des sentiments. L'auteur aurait demandé en mariage la fille d'un général, et le père s'était montré favorable à sa demande, contrairement à la mère de la jeune personne qui avait manifesté une certaine réticence. Réticence qui aurait été justement vaincue par ce poème. Il est à peine besoin de souligner comment se répartissent les métaphores, n'est-ce pas, la partie est de la glace de l'étang qui a fondu, eh bien c'est le papa, et la partie bloquée, n'est-ce pas, fermée, par la neige, c'est soit la belle elle-même, soit la belle-mère ou la future belle-mère, n'est-ce pas ? Donc, c'est en tout cas que ce soit la jeune fille ou sa maman, et elles ont changé leurs sentiments en entendant ou en lisant le poème. Quoi qu'il puisse en être, si l'on retient seulement que cette piécette a prouvé son efficacité en changeant le cœur de celle qui l'a lue, nous voyons qu'elle se rattache doublement à celle qui précède. D'une part par le thème, qui est le décalage entre début du printemps et l'an neuf, d'autre part comme exemple d'opérativité verbale, n'est-ce pas ? D'opérativité verbale réussie, comme dit le célèbre traité de Austin, n'est-ce pas ? How to do things with words, comment faire, c'est dire. Le premier poème remuant le cœur de l'empereur et le second faisant fondre le cœur de la belle ou de la belle-mère. En l'absence de préface, nous ne pouvons savoir exactement quelle était l'intention de Kinto, mais il est évident que les commentateurs anciens ont eu leur idée là-dessus. Nous n'avons aucun moyen de vérifier si le lien qu'ils ont établi était conforme à la volonté du compilateur, mais l'essentiel, Pour nous qui nous soucions avant tout dans cette enquête de la continuité de la conscience langagière telle qu'elle se dégage de cette tradition d'exégèse poétique, est qu'il se soit instauré, ce lien, et ce, à date assez ancienne, pour créer la tradition. Il est en tout cas impossible pour tout, nous ne dirons pas lettré, mais même toute personne japonaise un peu cultivée, de ne pas découvrir les traditions qui se rattachent à l'énonciation de ces poèmes, sans penser immédiatement au tout début, d'abord la première pensée, n'est-ce pas, la préface japonaise du Kokinshu, que je vous donne, dont je vous donne ici l'une des parties. Vous avez le texte japonais et je vous donne la traduction française. Je cite « De tous les êtres vivants, lequel ne composerait pas de poème ?»« Ce qui, sans recours à l'effort, chikara o irezushite. » Chikara omo irezushite. « Ce qui, sans recours à l'effort, remue le ciel et la terre, inspire la pitié aux esprits invisibles. » Onigami, là, je ne reviens pas là-dessus, on en a traité la dernière fois, enfin, il y a 2 ans. Donc, ce qui inspire la pitié aux esprits invisibles, adoucit les rapports entre hommes et femmes, apaise le cœur des farouches guerriers, c'est la poésie. Tacitement, de notre point de vue de moderne, mais de façon évidente pour tous à l'époque, les 2 premiers poèmes choisis par Kinto pourraient donc bien se référer à la préface japonaise de Tsurayuki, avec laquelle il résonne sans aucun doute. Mais les 2 citations du Roishu sont sino-japonaises et le bon sens exige donc, d'autant plus que c'est appuyé par l'auteur de l'un des 2 poèmes, le bon sens exige donc que nous allions voir ce que dit l'autre préface du Kokinshu, celle en sino-japonais, écrite par Yoshimochi, l'auteur du 1er poème. Or, nous constatons qu'elle est légèrement différente. Je vous la traduis. Pour remuer le ciel et la terre, émouvoir les esprits surnaturels, convertir à la morale, adoucir les rapports entre mari et épouse, il n'y a rien de mieux que le waka. Ce que l'on peut traduire du terme général de morale, jinrin, est en fait plus précis. Il désigne les 5 relations sociales qui règlent les rapports humains, les 2 premiers, enfin les plus importants, étant ceux entre souverain et sujet, ou le ministre, n'est-ce pas, shin, et entre époux, les autres étant la relation entre parents et enfants, entre frères et entre amis. Le verbe « kasu », n'est-ce pas, « bakeru », n'est-ce pas, « jinin o kasite », le verbe « kasu » signifiant « transformer dans le bon sens »,« améliorer », nous voyons que les 2 premiers extraits suivent exactement l'ordre de la préface chinoise, la préface japonaise mettant la relation homme et femme d'abord et ensuite les farouches guerriers, un terme qui ne peut sans doute pas s'appliquer à un souverain de l'époque de Heian. La préface chinoise est donc légèrement décalée par comparaison avec la préface japonaise qui s'accorde mieux avec ce choix. Il faudrait alors conclure qu'il y a bel et bien un rapport étroit entre le contenu de ces poèmes et la préface chinoise de Yoshimochi. Le fait que le 1er poème du recueil soit du même auteur devient en ce cas une référence tacite à sa préface, en même temps qu'une illustration de ce contenu. La poésie permet effectivement de rectifier la hiérarchie sociale. Qu'il y ait bien, quoi qu'il en puisse être, un lien indéniable avec le Kokinshu est souligné par le 3e poème, que j'avais déjà brièvement montré au 1er cours, dans son étonnante version en lettres latines telle que l'a produite Rodriguez, que je vous redonne ici, n'est-ce pas, dans cette délicieuse transcription ancienne, et qui est en même temps, qui a sur les versions, les transcriptions modernes, un avantage, je dirais, linguistique, c'est-à-dire qu'il met les enclitiques, vous voyez, les no, les wo, etc., il colle les enclitiques, très littéralement, ce qui est leur étymologie, au nom qui les supporte, n'est-ce pas, ce qu'on ne fait pas dans les transcriptions modernes et qui est bien plus intelligent linguistiquement. Donc je vous redis la traduction de ce texte. Au cours de l'année, le printemps est arrivé. De l'année entière, donc de l'année où nous vivons encore, de l'année entière, dira-t-on l'an passé ou dirons-nous cette année ? Ce plus que célèbre poème est l'œuvre de Arihara no Motokata, dont nous ne possédons plus le recueil poétique individuel, mais qui figure quand même dans l'une des multiples listes des 36 immortels de la poésie, Sanjuro Kassin, et qui est en outre le petit-fils de Arihara no Narihira, le modèle probable du protagoniste de Issei Monogatari. Poème emblématique, donc, qui est donné ici comme premier poème du recueil, de même qu'il est le premier poème du Kokinshu. C'est assez dire la volonté du compilateur de présenter symboliquement son anthologie japonaise et chinoise sous le signe du Kokinshu. Nous verrons dans un instant qu'il ne s'arrêtera pas là, mais nous pouvons d'ores et déjà admirer la façon, si notre lecture est exacte, dont il a suggéré la présence de la préface du même recueil dans les deux premiers poèmes sino-japonais. Et là non plus, nous n'oublierons pas que c'est la préface chinoise, celle de Yoshimochi donc, qui a été rédigée en premier, pour être remplacée plus tard par celle de Tsurayuki. Vous voyez qu'il rétablit l'ordre en quelque sorte, pour les faire suivre ensuite du premier poème en japonais, se rendant ainsi conforme à la première rédaction du Kokinshu. Préface en chinois, poèmes en japonais. Voilà donc la première série typique de l'ordonnancement du Wakan no Eishu. Au moins deux poèmes chinois ou sino-japonais, puis un ou plusieurs poèmes japonais qui traitent du même thème. Il nous faut certes distinguer l'intention première du recueil, contenue dans le terme de roe, qui désigne la performance orale qu'avait certainement Kinto en tête en le composant, de la façon dont il a été reçu dans la tradition littéraire japonaise. Le livre de classe dont parlait le professeur Shidane, ce qu'il fut très littéralement au cours de l'histoire japonaise. C'est bien entendu selon ce second aspect que nous menons ici notre lecture. Mais il doit être évident pour tout le monde à présent que le souci de hiérarchisation des deux ou trois dimensions langagières était déjà bel et bien présent à l'esprit du compilateur. S'ouvre ensuite une autre série qui nous présente cette fois les premiers vers de Po Chuyi. Et nous allons trouver un enchaînement typique de deux extraits de ce poète, un poème sino-japonais et deux poèmes japonais. Le seul trait exceptionnel du passage que nous allons voir maintenant est que les deux distiques de Po Chuyi sont en réalité les deux parties d'un même poème. Ils sont séparés simplement dans la classification de Kinto, enfin, ou en tout cas de l'éditeur. Le plus souvent, lorsque s'enchaînent ainsi deux distiques du même poète, de Po Chuyi, ils proviennent de deux pièces différentes. Cela plaide bien sûr en faveur de l'une des théories sur le choix des poèmes qui serait à l'origine des calligraphies sur paravent recueillies par Kinto en vue d'en faire une sorte de répertoire. Précisons d'ailleurs que cette scission n'est pas dans l'ensemble des manuscrits, certains préférant reconstituer le poème en un seul, ce qui est plus normal, mais plaide pour un remaniement ultérieur. Nous n'avons d'ailleurs pas de raison d'en faire autrement nous-mêmes et nous le présenterons aussi en une seule fois. C'est plus facile. Remarquons enfin que ce premier poème de Po Chuyi est parfois, dans certaines éditions du Wakan no Eishu, est parfois mis aussi immédiatement après le poème sino-japonais de Yoshimochi, ce qui relègue le premier poème du Kokinshu en cinquième position, après un autre poème sino-japonais que nous verrons tout à l'heure. Ce remaniement est très intéressant, car il détruit l'agencement que nous avons discerné dans les trois premiers poèmes au profit d'un regroupement selon la langue. Il montre donc une incompréhension certaine des intentions du compilateur, c'est-à-dire la main d'un éditeur plus sensible aux affinités que nous avons mises en évidence en regroupant les langues. Ce thème du poème est donné par l'un de ses titres intitulé « L'étang de l'ouest de la... » Je ne sais pas, c'est... Non, il n'est pas là. Ah oui, il est en bas, c'est la dernière ligne, n'est-ce pas ? L'étang de l'ouest de la préfecture, Fuseichi, Fuseinoike, Fushichi en chinois. Et certains manuscrits donnent une précision qui semble rajoutée, Nennai Rishun, c'est-à-dire le début du printemps dans l'année, ce qui prolonge la série précédente. La préfecture dont il est question ici est celle d'une préfecture du Henan, où Po Chuyi était stationné, était en poste en 830. Voyons d'abord le texte. Alors, je ne vais pas justifier chacune de mes traductions, surtout pour les pointes des branches, etc. Ça nous mènerait trop loin. Prenez-la telle qu'elle, et puis nous pourrons en discuter pendant le séminaire, si vous voulez. Les saules sont sans force. Seuls tremblent les pointes des branches. Sur l'étang, les vagues tracent leurs signes. Ceci nous fait penser, bien sûr, au texte de Kukai que nous avons vu l'an dernier, n'est-ce pas, où les signes de la nature montent, n'est-ce pas. Sur l'étang, les vagues tracent leurs signes. La glace partout s'est rompue. Second distique. En ce jour, à l'improviste, Shiraz, ici, sans qu'on en prenne conscience, en ce jour, à l'improviste, qui donc l'a calculé pour que vent du printemps et eau vernale en même temps surviennent. Cette délicate description des timides prémices du printemps dans la première partie se poursuit dans la seconde par une réflexion de naïve contemplation de la nature. Quel est l'esprit primordial qui agence les phénomènes de façon aussi harmonieuse ? C'est le grand horloger, n'est-ce pas ? Nous voyons sans peine comment les poèmes sino-japonais qui l'ont précédé répondent par anticipation à ce poème de Pochuyi, qui leur est bien sûr antérieur. Nous avons le vent, l'eau, les fleurs. Nous voyons aussi que nous avons ici, avec la locution en même temps, qu'on peut lire Ichiji ou Ishi, n'est-ce pas ? Ichiji ni kitaru ou Ishi ni kitaru, une manière de réponse à l'embarras créé par le déphasage entre le début du printemps et l'an neuf. Tout est admirablement coordonné dans le monde. Cela rend d'ailleurs peu compréhensible la suscription Nennai Rishun, n'est-ce pas, arrivée du printemps du Rishun au cours de l'année, avant le nouvel an, que porte l'un des manuscrits. À moins que ce ne soit précisément pour mieux mettre en contraste ce poème avec les trois premiers. Ainsi, l'apparition, si l'on peut dire, du premier poème de Pochuyi dans le recueil résonne comme une révélation. Il place brusquement la poésie au niveau de la réflexion philosophique, bien que ce soit en termes très simples, mais qui tranche avec la tonalité générale de la poésie qui s'attache à exprimer les sentiments plutôt que la réflexion. Serait-ce aller trop loin que de voir en ces vers l'une des raisons qui font qu'un moine bouddhique comme Jien fera plus tard de Pochuyi le corps de transformation de Manjushri, le bodhisattva de la sagesse, pratiquement un bouddha. Cette tonalité d'interrogation métaphysique, si l'on peut dire, est prolongée dans le poème suivant, qui lui donne une coloration religieuse indéniable. Il s'agit du premier distique d'un quatrain sino-japonais de 7 pieds, Shichigonzeku, dont l'auteur est désigné à la chinoise comme Ryoshundo, son nom japonais étant Korenaga, parfois lu Koreyoshi, no Hadomichi. Il vécut au 9e siècle, il était peut-être de famille d'origine coréenne et était le contemporain de Ono no Takamura, 802-853, le célèbre poète de style chinois et de style japonais. Nous avons au moins un échange de poèmes chinois entre les deux. La seconde partie de ce poème, d'ailleurs, les deux derniers vers, donc, se trouvent, eux, dans le Shinsei Eroeshu, n'est-ce pas, dans le nouveau Eroeshu, justement dans la sous-rubrique « Récitation du nom de Bouddha », Butsumyo, qui relève, comme dans notre recueil, de la rubrique « Hiver ». Alors, vous voyez que selon les listiques, l'un est en hiver, l'autre est en été, au printemps, mais vous allez en voir la raison tout de suite. Nous verrons donc cette seconde partie en séminaire. Nous nous contenterons ici de la première. Une notice nous apprend que le poète résidait dans un temple, un temple de montagne, même Sanji Yamadera, au moment du début du printemps. On ne sait si ce Yamadera était le En-ryakuji ou le Ishi Yamadera, mais voici ce qu'il décrit. Je vous traduis ce poème. La nuit approche de la dernière veille. Le cimandre ou la cimandre dans le froid s'est tu. Le printemps naît dans la flamme d'encens. À l'aube s'allume le brûle-parfum. Alors, là, je traduis le mot ke, n'est-ce pas, que l'on traduit souvent par le gong, par cimandre, qui est un terme peu connu, qui vient d'un mot grec, cimandron, qui signifie le signal à l'origine, d'ailleurs le sceau dans les textes anciens. Et c'est un instrument que l'on trouve dans les monastères orthodoxes. Voici, vous voyez la cimandre en bois à droite dans un monastère roumain et à gauche, en haut à gauche, le ke, n'est-ce pas, dans un monastère japonais. Ils se ressemblent beaucoup tous les deux. Je pense que c'est intéressant de le traduire comme ça, parce que c'est pas du tout la même chose. Le gong ne signifie pas du tout la même chose, n'est-ce pas ? Et vous avez évidemment, nous n'en finirions plus pour traiter les deux. Il y a un intermédiaire entre les deux qui est la planche, n'est-ce pas, le han, ou la planche de bois, le kaiban, n'est-ce pas, dans les monastères zen. La planche en tant que telle vient peut-être des monastères indiens, mais le ke Et vous voyez, c'est une simplification de l'ancien instrument de musique chinois. Enfin bon, voilà, c'était simplement une petite digression là-dessus, pour vous, si vous voulez bien m'excuser. En plus, le genre du mot cimandre n'est pas... C'est en principe masculin, puisque c'est un neutre en grec. Mais on le trouve le plus souvent en féminin en français. Voilà. Ça me semble être un mot très utile pour traduire certaines poésies sino-japonaises. On comprend sans peine que la seconde partie du poème a été mise dans la rubrique hivernale. Et nous verrons que son contenu est profondément bouddhique, puisqu'il évoque comment la pratique de la pénitence, zangé en japonais moderne, mais la prononciation puriste de l'école Tendai est sangé. Comment la pratique de cette pénitence, donc sangé, défait les obstacles karmiques et dissipe l'ignorance. Déjà dans ce premier distique, la mention de l'encens et de l'encensoir, sans parler de la situation dans un temple bouddhique, ne peut que nous orienter vers une représentation religieuse du printemps. À l'adverbe de temps « ichiji », n'est-ce pas, en même temps du poème de Pochuyi, répond ici tout le premier vers, qui mentionne les heures nocturnes égrenées par le cimandre, ce qui crée un lien entre la question du poète chinois « qui a coordonné la nature pour que les phénomènes arrivent ainsi en même temps ?» et la réponse du poète japonais qui évoque les heures monastiques. Dans la nuit, dont on comprendra à la lecture du second distique que c'est celle de l'ignorance. À l'issue de la nuit, c'est la fumée de l'encens de la cérémonie bouddhique qui salue l'aube, Akatsuki, dont le nom s'écrit avec un caractère, le caractère gyo, qui se lit aussi satoru, satori, lecture sur laquelle il est à peine besoin d'insister, donc c'est l'éveil bouddhique. Ainsi, le printemps est associé sans ambiguïté à l'idée d'éveil. On trouve donc renforcé et prolongé dans ce poème, sino-japonais, l'atmosphère métaphysique au sens de tentative d'aller au-delà de l'apparence de la nature qui s'esquissait chez Pochuyi, pour nous retrouver franchement dans une réponse toute bouddhique. Il n'y a pas d'antagonisme avec le poète chinois, mais bien prolongement, car nous avons déjà vu, bien que très rapidement, combien le bouddhisme imprégnait l'esprit de l'œuvre de Pochuyi. Après cet agencement typique d'un poème de Po suivi d'un poème sino-japonais, la série se complète avec deux poèmes japonais. L'auteur du premier nous indique à l'évidence que nous avons là aussi affaire à une allusion au Kokinshu, puisqu'il s'agit de Kino Tsudayuki, qui fut l'un des compilateurs officiels du recueil, où ses poèmes figurent en bonne place, outre bien sûr qu'il fut eux aussi le préfacier japonais. Le placer ainsi dans le recueil de Kinto comme le second poète japonais après Motokata, qui en est l'inévitable premier, en référence directe à l'ordonnancement du Kokinshu, accentue l'analogie qu'entend établir Kinto avec la structure de la première anthologie impériale. D'autant plus, bien évidemment, que le poème de Tsudayuki est aussi le second poème du Kokinshu. Second donc par la position, mais premier par son auteur. Voyons-le tout d'abord. Je vous donne la transcription japonaise en dessous du texte japonais, donc je peux me contenter de la lecture. Trempant mes manches, là aussi j'adapte un tout petit peu, mais trempant mes manches, alors on peut lire « shite » ou « shijite ». L'eau que j'avais prise au creux de mes mains, n'est-ce pas, « musubu », était prise dans la glace. En ce jour où se lève le printemps, le vent pourra-t-il la fondre ? Ce poème où se mêlent les allusions à trois des quatre saisons, l'été où le poète se rafraîchissait au même ruisseau, l'hiver, où ce ruisseau était gelé, et le printemps, où l'eau du ruisseau dégèle, reprend donc évidemment les éléments des précédents que sont le vent et l'eau. Mais nous voyons aussi qu'avec l'adverbe de temps « kyo », le poème répond au même mot qui apparaît dans le poème précédent de Pochuyi. Vous aviez « kyo shirazu », n'est-ce pas, qu'on pourrait lire « kyo shirazu »,« tareka keikai seshi », on ne sait... Qui a aujourd'hui à calculer ce jour, n'est-ce pas, pour que tout tombe ensemble aussi bien. Ce ne peut être d'autant moins un hasard que nous allons le retrouver dans le second poème japonais, qui est aussi le dernier de cette seconde série. Il s'agit cette fois d'un poème de Mibune Tadamine, qui fut actif entre 898 et 920. Il a plusieurs poèmes présentés dans le Kokinshu. Et bien qu'il ne figure pas au nombre des plus illustres poètes, il est malgré tout compté parmi les Sanjurok Kassen, donc les 36 immortels de la poésie. Ce n'est pas étonnant, dira-t-on, qu'il soit ici en bonne place, puisque ce classement même est l'œuvre de Quinto. J'ajoute que ce poème, je vous avais parlé du petit traité de Quinto où il classe les poèmes en kubon, n'est-ce pas, neuf catégories, les poèmes japonais en neuf catégories, et ce poème figure justement dans la catégorie la plus élevée, n'est-ce pas. N'oublions pas que ce Mibu no Tadamine compte aussi parmi les compilateurs du Kokinshu, ce qui expliquerait déjà suffisamment le choix de ce poème parmi les premiers du Roeishu. Mais de plus, le poème donné ici a une importance toute particulière, puisqu'il s'agit du tout premier, c'est-à-dire du poète qui ouvre le recueil des glanures poétiques du Shuishu, n'est-ce pas, le Shui Wakashu, la troisième anthologie impériale, achevée entre 1005 et 1010 à peu près. Et on se souviendra que Quinto avait joué un grand rôle dans sa composition. Nous voyons encore une fois jouer l'intrication des motifs du choix. Tadamine fut l'un des responsables du Kokinshu, son poème est le premier du Shuichu, dont Quinto fut l'un des compilateurs. Il y a une dernière raison que nous allons comprendre à la lecture de ce poème, et qui constitue par ailleurs un intéressant petit problème textuel. Je vous donne ce poème. « N'est-ce qu'en parole que le printemps commence ? Sur les monts profonds du Yoshino, il me semblerait aujourd'hui apercevoir la brume. » J'adapte légèrement pour accentuer le sens. S'il en était encore besoin, j'en avais parlé la dernière fois lors de mon séminaire, n'est-ce pas ? Ce poème démontre une fois de plus que le thème qui se trouve le plus souvent associé à l'image des célèbres collines de Yoshino près de Nara, et je vous invite d'ailleurs à taper Yoshino sur Google Images et vous verrez ce que le poète a en tête. Donc ce qui est le plus souvent associé à l'image des célèbres collines de Nara, ce n'est pas seulement l'éveil, vous savez que c'est un lieu de pratique bouddhique, un lieu d'érémitisme, et donc un lieu d'éveil, d'ojo, un lieu de pratique et d'éveil, mais c'est avant tout, et ça se trouve systématiquement dans les poèmes, très souvent en tout cas, c'est le lieu de la confusion des perceptions visuelles. Les cerisiers qui fleurissent au printemps sont pris pour de la neige, ou vice-versa, ou la neige pour les brumes de printemps, comme ici. Sachant que le Rishun est là, le poète voudra voir de la brume, il va se forcer à voir de la brume printanière là où il n'y a encore que la neige de l'hiver. Bien que le thème ne soit pas bouddhiste en soi, il a cependant été très exploité dans les poèmes à thème bouddhique, au point de devenir une véritable aporie sur la perception et l'esprit qu'il perçoit. C'est-à-dire ce que l'on a ici. Évidemment, je ne dis pas ici que c'est un poème bouddhique, n'est-ce pas ? Mais vous voyez tout à fait les prémices. N'est-ce pas ? Ce n'est pas l'objet objectif qui importe, c'est l'esprit, le kokoro, qui perçoit cet objet. Selon lui, voudrait, sachant que c'est le Rishun, il veut voir de la brume là où il n'y a encore peut-être que de la neige, tout simplement. On a vraiment ici une bonne illustration laïque, si j'ose dire, de cette métaphore de Yoshino comme lieu de la confusion des sens, et pas seulement de l'éveil. L'éveil vient justement à Yoshino aussi, parce qu'on s'aperçoit que cette confusion des sens provient de l'esprit et pas de la nature que l'on observe. Une fois que l'on a compris ça, on est sur le chemin de l'éveil. Alors que le Shuishu, donc les glanures poétiques, ou des recueils aussi célèbres que le Teika Hachidaisho, par exemple, l'anthologie que Teika avait fait lors de la première moitié du XIIIe siècle des huit grands recueils, des huit grandes anthologies qui précédaient, et un nombre important d'éditions du Roeishu même, donne pour le cinquième vers la version que vous voyez ici, n'est-ce pas, Kesawa Miyuran, c'est-à-dire ce matin, au lieu de aujourd'hui, n'est-ce pas, donc il faudrait traduire à ce moment-là. On va traduire à ce moment-là, il me semblerait ce matin apercevoir la brume. Les éditeurs modernes du Roeishu sont partagés entre les deux lectures, ce qui est surprenant compte tenu de la qualité des témoins de Kesa au lieu de Kyo, n'est-ce pas, en dehors du Roeishu. Mais ainsi que je l'ai fait remarquer tout à l'heure, nous les comprenons sans peine, nous comprenons leur choix sans peine si nous prenons en considération l'enchaînement des poèmes à l'intérieur de cette série. Nous avons vu en effet le mot « kyo », « konnichi », apparaître dans le poème précédent de Tsurayuki, et nous avons remarqué qu'il répondait aux termes japonais et sino-japonais, donc konnichi, kinjitsu en lecture kaon, et kyo du poème de Pochuyi. Il serait alors plus satisfaisant de compléter la série temporelle par le même adverbe et penser que telle était bien l'intention originelle de Kinto. C'était donc la leçon kyo qu'il avait sous les yeux. Mais il est vrai que la leçon Kessa ne bouleverse pas de fond en comble la série. Simplement, là, nous avons un rappel tout à fait identique à chaque fois du terme. Nous avons donc passé en revue les 8 ou 7, selon les décomptes, poèmes et distiques qui forment la première partie de cette première rubrique du printemps, série consacrée au Lishun. Cela ne fait que la 100e partie du recueil, mais nous pouvons déjà en retirer quelques impressions. Tout d'abord, nous avons mis en lumière les liaisons évidentes entre le choix des pièces poétiques et l'intention du compilateur d'associer ces pièces à la constitution d'une sorte de préface non explicite, d'une introduction sous forme poétique qui fait fonction de préface si nous prenons garde à la place des poèmes japonais dans leur recueil d'origine et à leurs auteurs. Nous avons remarqué aussi l'illustration de l'efficacité de la parole poétique, exemplifiée par des poèmes sino-japonais, mais qui repose sur les idées exprimées par les deux préfaces sur les poèmes japonais. Mais il y a, par-delà les analogies de structure, une particularité de cette série, et je ne parle pas évidemment de l'efficacité verbale, une particularité de cette série qui nous donne un aperçu, aussi subtil qu'il puisse être, de la façon dont Kinto a conçu ses choix. Nous constatons que tous ses poèmes, sauf un, le second, se situent explicitement non seulement sous le signe des saisons, ce qui est normal, mais se réfèrent au temps lui-même, au temps qui passe. Nous remarquons en effet que, mis à part le distique de Tokubo, qui se situe pourtant bien dans la suite du premier en prolongeant le thème du décalage du Rishun et du printemps, tous contiennent des termes qui se réfèrent non à la saison, mais au temps qui passe. Nous avons le mot ko du premier poème, le mot ko de tenko, n'est-ce pas ? Le temps, le moment. Les deux adverbes de temps, kozo, kotoshi, dans le poème de Motokata, donc cette année et l'année dernière. Le quatrain de Pochuyi contient aujourd'hui, calcul et en même temps. Le terme de calcul est prolongé dans le poème de Hanomichi par la mention de la cimandre et des veilles de la nuit, avec ensuite, dans les deux derniers poèmes, la répétition de kyo, si nous acceptons cette lecture de kyo au lieu de kesa. Cette cohérence du vocabulaire à travers les morceaux qui composent cette série est d'autant plus remarquable qu'on ne la retrouve pas du tout dans la sous-rubrique suivante, par exemple, qui est consacrée à Soshun, les Hayaku, Hayaki Haru, c'est-à-dire les premiers jours du printemps, ni dans celle qui suit, Kyoshun, Kyojiru, Koshun, l'essor du printemps, Sakadun. Cette préoccupation pour le temps, par-delà les saisons, serait-ce aller trop loin de l'attribuer à des préoccupations bouddhiques. Il semble pourtant que l'identifier comme tel permettrait d'établir avec l'avant-dernière rubrique du Wakan Loishu, l'avant-dernière rubrique, qui est placée elle aussi à un endroit particulièrement visible, particulièrement important et visible, n'est-ce pas ? On se rappellera que la toute dernière rubrique est intitulée Haku, blanc, n'est-ce pas ? Mais je suis déjà. On ne sait pas pourquoi. Je vous ai esquissé quelques explications la dernière fois, nous y reviendrons plus tard. Mais la dernière rubrique intelligible, donc, ce qui est l'avant-dernière, concerne une notion éminemment bouddhique, c'est la notion de l'impermanence, mujo. Nous aurions alors tout le recueil ainsi placé sous le signe d'une catégorie parfaitement bouddhique, celle du temps et qui est évidemment reliée à l'impermanence, qui est encore bien en conformité avec les idées bouddhiques de Pochuyi que Kinto ne fait qu'accentuer. Je vous remercie donc de votre attention pour aujourd'hui.